Lisons ouvrir vos Bibles en Romains, au chapitre 6. Voilà. Donc, Romains chapitre 6, on va d'abord, avant de lire le passage qui fera l'objet de notre étude ce soir, on va à nouveau remettre le passage dans son contexte. Moi, je ne m'en lasse pas parce que c'est vraiment important de nous rappeler ce qu'on a appris dans les messages précédents et puis de bien situer notre enseignement dans le contexte de Romains, parce que c'est une unité. Donc les cinq premiers chapitres de ce livre arrivent à la conclusion de la totale incapacité de l'homme à se sauver lui-même et la magnifique nouvelle de la justification par la grâce et par le moyen de la foi. La parole nous dit dans Romains chapitre 4, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc la justice dont nous avons besoin pour être sauvés, elle nous est imputée de l'extérieur. Et cette justice, ce n'est pas la nôtre, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Christ aussi. Et elle nous est imputée par grâce, par le moyen de la foi, à nous qui ne méritons que la condamnation, comme les trois premiers chapitres de ce livre le montrent si brillamment, si clairement. Donc au chapitre 5, Paul déclare qu'étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ et qu'étant justifié par son sang, nous sommes sauvés de la colère. Et si on se demande comment l'œuvre d'un seul homme, finalement, peut s'étendre à tous les croyants, c'est une question légitime, mais Paul nous explique dans la deuxième partie du chapitre 5 qu'il y a en quelque sorte un principe de représentation. Donc Adam était le représentant de la race humaine, il a été soumis à un test dans le jardin d'Éden, et il a échoué ce test. Et son péché, à cause de son péché, la mort s'est étendue à tous les hommes, à cause de son péché. Même à ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, en particulier les petits enfants, les bébés. Et Paul nous explique que ce principe de représentation qui vaut pour le péché, il vaut aussi, donc, qui vaut pour le péché et pour la mort, il vaut aussi pour la justice et pour la vie. Et il nous dit cette phrase dans Romains chapitre 5, « Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Et cet acte de justice a été accompli par Jésus-Christ. « Tous les hommes meurent en Adam et tous ressuscitent en Christ, » dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Ils n'étaient pas dans le jardin d'Éden et ils n'étaient pas sur la croix, mais ils sont condamnés en Adam, et ils sont justifiés en Christ. Justifiés en Christ, si bien sûr, ils mettent en lui leur foi. Et en fait, cette comparaison entre Adam et Christ, elle est asymétrique. La comparaison entre le péché et la grâce est asymétrique parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, elle est bien plus grande et bien plus forte que l'œuvre d'Adam en Éden. Et donc, comme beaucoup de doctrines bibliques, il y a un risque à les étendre avec la logique humaine, là où on ne doit pas aller. À les développer sur de la base de raisonnement logique, on risque d'aller au-delà de ce que la parole voulait dire. Et ainsi, la logique humaine aura tendance à dire, bien, si là où le péché abonde, la grâce surabonde, alors péchons encore plus, comme ça il y aura plus de grâce. Mais Paul est horrifié par cette proposition et il va consacrer tout le chapitre 6 à contrer cet argument. Il le fait en deux parties. Donc on a déjà vu ensemble la première partie qui va des versets 1 à 14, qui elle-même est constituée de deux sous-sections. Il y a la première partie qui va jusqu'au verset 10, qui est une section doctrinale. Il n'y a pas d'exhortation, c'est que de l'enseignement. Elle nous enseigne cette vérité fondamentale de l'union du chrétien avec Christ. Lorsqu'un homme devient chrétien, il est uni avec Christ dans la mort et avec Christ dans la résurrection. Son vieil homme, qui s'entendait parfaitement avec le péché, est mis à mort à la croix, il est crucifié, et un homme nouveau est né qui ressuscite avec Christ. L'homme nouveau n'est plus en accord avec le péché, il est uni à Christ et il est mort au péché, dit la parole. Toutefois, cet homme nouveau habite toujours dans un corps mortel dans lequel le péché réside toujours. Et c'est ce que Paul appelle donc la chair. Et donc l'homme nouveau est totalement étranger au péché, mais le péché cherche toujours à dominer dans son corps mortel. Donc il y a effectivement une, une tension que nous connaissons tous bien, si nous sommes au Seigneur. Il y a toujours cette tension contre du péché qui habite en nous. Et c'est pourquoi Paul, du verset 11 au verset 14, nous exhorte à lutter contre le péché. Et une arme clé de cette lutte contre le péché, c'est la prise de conscience que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Christ. Nous avons changé de domaine, nous avons changé de royaume. Avant, nous étions dans le royaume des ténèbres, du péché, de la loi et de la mort. Maintenant, nous sommes dans le royaume du Fils bien-aimé, le royaume de la grâce et de la vie. Avant, la loi était rendue sans force par la chair et même elle nous incitait à pécher. Elle nous conduisait à la mort. Mais par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Nos cœurs de pierre ont été changés dans des cœurs nos cœurs de pierre ont été changés dans des cœurs de chair. La loi qui nous enserrait comme un carcan a été écrite par Dieu dans notre cœur et maintenant nous en faisons nos délices. Et par l'Esprit, nous sommes rendus capables de faire la volonté de Dieu et nous sommes motivés à le faire par gratitude pour l'œuvre de Christ à la croix. Donc tout ce que je viens de dire, qui ne se trouve pas que dans Romains, mais résumé dans cette phrase de Paul au verset 14 où il dit « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et j'en profite pour insister au passage sur ce mot « pouvoir » et pour noter que ici, dans ce chapitre, le chapitre 6 n'est pas vraiment consacré à la justification, mais il est consacré à traiter de la puissance du péché et de comment nous pouvons avoir la victoire sur cette puissance. Donc on est dans une section qui n'est pas sur la justification, mais qui est sur la sanctification. Et la base de cette sanctification, c'est la compréhension et la réalisation d'une vérité théologique, qui est notre mort au péché et notre vie en Christ. Donc c'est la doctrine de l'union avec Christ. Donc maintenant nous allons lire le passage, je vais lire donc pour vous le passage du verset, à partir du verset 15, je lirai jusqu'à la fin du chapitre, et aujourd'hui on va étudier les versets 15 à 18. Au début je pensais faire la totalité, je me suis rendu compte qu'il y avait trop à dire, donc on va regarder les versets 15 à 18. Donc je lis à partir du verset 15, chapitre 6. « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, si on se rappelle comment commence le chapitre 6, en fait, le chapitre 6 suit directement le chapitre 5, les versets 20 et 21. Donc, dans ces versets, Paul a fait cette affirmation dont j'ai parlé à l'instant, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et en faisant cette affirmation, Paul a identifié le risque d'être mal compris de ses auditeurs, et donc il a craint qu'il soulève cet argument. Quoi donc demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Donc au chapitre 6, verset 1. Et il s'est donc écrié loin de là. Donc il est horrifié par cette idée. Et en fait, le verset 15 reproduit exactement le même schéma par rapport au verset 14. Donc au verset 14, Paul fait cette affirmation que nous venons de voir. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pareillement, en faisant cette affirmation, il se rend compte que des personnes ne vont peut-être retenir que la deuxième partie de la phrase « Vous êtes non sous la loi mais sous la grâce » et vont dire « Péchons, hein, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce » et à nouveau, ils s'exclament « Loin de là », horrifiés par cette idée. En fait, cette idée de dire, donc cette idée, cet argument au verset 15, c'est ce qu'on appelle, un gros mot que j'ai utilisé l'autre fois, l'antinomianisme, qui en fait est un concept assez simple qui contient le mot anti qui veut dire contre et le mot nomos qui veut dire loi. Donc c'est être opposé à la loi. Et cet argument, il est fondé sur une compréhension erronée de l'expression ne pas être sous la loi. Parce que Paul a dit, vous n'êtes pas sous la loi. Et donc l'idée, en fait, dans cet antinomianisme serait que nous sommes sans loi, nous ne sommes plus moralement responsables, nous pouvons pécher tant que nous voulons. De toute façon, nous sommes sous la grâce. Et donc tout notre péché serait sans conséquence. Et nous avons démontré, donc, lors de notre dernière étude, que cette interprétation est erronée sur le plan biblique, et s'il faut un seul verset parmi ceux qu'on a étudiés, c'était dans 1 Corinthiens 9, 20 et 21, où Paul dit justement très clairement qu'il n'est pas sous la loi, il dit ça au verset 20, et cependant, au verset 21, il dit que cependant il n'est pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Et donc, entre le verset 15 et la fin du chapitre 6, Paul va démontrer justement que le fait de pécher pour un chrétien n'est pas sans conséquence. Parce que l'antinomianisme dirait, c'est pas grave, on peut pécher tant qu'on veut, de toute façon on n'est plus sous la loi. Mais il va démontrer, là l'argument qu'il va développer, c'est que non, même un chrétien, quand il pêche, ça n'est pas sans conséquence. Donc, on va regarder le plan du passage, donc jusqu'à la fin du chapitre, hein, un petit peu pour un peu resituer. Donc au verset 15, on a cet argument que Paul va réfuter dans le reste du passage. Au verset 16, hein, si vous avez vos Bibles devant vous, au verset 16, Paul fait une affirmation générale. Il fait une affirmation générale sur les conséquences des choix du chrétien par rapport au péché et par rapport à l'obéissance. Donc si vous choisissez le péché, voici la conséquence. Si vous choisissez l'obéissance, voilà la conséquence. Au verset 17 et 18, Paul fait une constatation par rapport à ce qu'il vient de dire sur la voie qui est suivie par ses auditeurs chrétiens entre le péché et la justice. Au verset 19, nous trouvons une exhortation de Paul envers les chrétiens à livrer leurs membres à la justice. Et dans les versets 20 et 22, il cite des raisons pour les inciter à suivre cette exhortation. Et au verset 23, c'est une synthèse de cette argumentation et de tout le chapitre. Donc j'ai essayé de résumer un peu, de paraphraser en plus court cette argumentation de Paul à partir du verset 15. Voilà ce que je dirais. Vous voulez utiliser la grâce comme prétexte pour pécher. Est-ce que vous êtes bien conscient que le péché mène à la mort? Heureusement, par la grâce de Dieu, vous n'êtes plus esclave du péché, mais vous êtes esclave de la justice. Alors, agissez en conséquence. Livrez vos membres à la justice. Vous savez bien que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que le fruit de la justice, c'est la sainteté, et votre fin, c'est la vie éternelle. Donc, c'est un petit peu, vous voyez, l'argumentaire de Paul devant ces gens qui veulent utiliser la grâce comme prétexte pour pécher. Et c'est vraiment, je crois, quelque chose moi, que j'ai souvent rencontré quand même dans les réflexions des gens, des chrétiens, j'entends, frères et sœurs en Christ, hein, une tendance à, peut-être, c'est peut-être particulièrement vrai de nos jours, à utiliser la grâce comme raison pour pécher. Et avant de rentrer dans le détail de cette section, je voudrais aussi faire une remarque générale et comparer la première section qu'on a étudiée, celle qui va des versets 1 à 14, à celle que nous regardons. Les deux sections donc, ont pour but de réfuter deux arguments similaires qui se résument à ceci, user de la grâce comme un prétexte pour pécher. Mais la première section réfute cet argument en se fondant sur le statut du chrétien, sur le nouveau statut du chrétien, son union avec Christ, le fait qu'il soit mort au péché, et donc que, étant mort au péché, péché pour lui est une aberration. Ça, c'est l'argumentaire de la première section. La deuxième section, elle, je dirais peut-être un peu plus pratique, elle a pour argument principal les conséquences respectives de la justice et du péché. Donc dans la première section, il dit « ne péchez pas parce que vous n'êtes plus sous le péché », puis dans la deuxième section, il dit « si vous péchez, réfléchissez aux conséquences. » Maintenant, on va rentrer dans le détail de cette section, donc verset 16. « Ne savez-vous pas, donc verset 16, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Esclave. Donc, dans toute cette section, nous voyons que l'homme a le choix entre deux esclavages. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un livre de John MacArthur, qui est un livre noir avec des lettres blanches dessus, « Esclaves ». Et c'est sur ce thème, en fait, sur le thème « Pourquoi Paul appelle-t-il les chrétiens esclaves et pourquoi part-il de l'esclavage ?» Donc l'homme a le choix entre deux esclavages, nous dit cette section, soit l'esclavage du péché, soit l'esclavage de la justice. Évidemment, le mot « esclavage » porte une mauvaise connotation. Il fait référence à une domination implacable, à une tyrannie. Si vous dites à une personne non-croyante, à quelqu'un qui est non-croyant, qu'il est esclave du péché, vous ne serez pas bien reçu. En fait, il ne s'en rend pas compte. Nous ne nous en rendions pas compte. Mais pourtant, il est totalement sous son emprise. Et dans ce verset, Paul reprend presque mot pour mot une phrase de Jésus qui se trouve dans Jean 8, 34. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Ce sont les paroles de Jésus. Et Paul dit presque la même chose. Mais Paul a aussi ajouté d'autres choses. Par exemple, en Éphésiens 2, il a dit qu'avant d'être sauvés, nous accomplissions la volonté de la chair et de nos pensées. Ça, c'est une image d'esclavage. En Tite 3.3, c'est encore plus clair, il dit que nous étions asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Donc il y a vraiment, vous voyez, cette idée de l'esclavage. Donc l'homme non régénéré, il est dans un esclavage complet. Alors, les addictions, par exemple, sont évidemment une image de cet esclavage au plus haut point. Mais pas besoin d'aller aussi loin. Parce que souvent, les gens qui sont dans une addiction le savent. J'entendais parler d'un acteur assez connu, Benoît Magimel, qui a été arrêté pour des histoires de cocaïne. Et cet homme-là sait qu'il en souffre. Il sait qu'il est sous une addiction. Mais l'homme non régénéré, il est esclave le plus souvent inconscient de son péché. Comme nous l'étions. Il est esclave de l'animosité, par exemple, par des pensées hostiles aux autres. Il est esclave de la calomnie ou de la colère que produisent ses pensées hostiles. Il est esclave de la convoitise des yeux. Il est esclave de l'argent et des biens matériels. Il est esclave de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, de l'égoïsme, de l'hypocrisie. Donc il est esclave de toutes ces choses-là, mais souvent à son insu, en fait. Et maintenant, autant on peut comprendre que Paul utilise cette expression de domination brutale pour le péché, autant on est surpris qu'il l'utilise pour la justice. Et pourtant, il l'utilise dans le domaine de Dieu, si je puis dire, pas une seule fois, mais quatre fois dans le passage. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble, donc jusqu'à la fin du chapitre. Au verset 16, il dit que nous sommes esclaves de l'obéissance. Donc, esclaves de l'obéissance, c'est cette expression. Au verset 17, il dit que nous obéissons à la règle de doctrine. Donc, il y a une notion d'esclavage dans ce mot obéissons, puisque on voit qu'il vient de dire qu'en fait, l'obéissance, on est esclave de ce à quoi on obéit. Donc, obéissance, esclavage, je dirais, à la règle de doctrine. Au verset 18, il dit que nous sommes esclaves de la justice. Et au verset 22, que nous sommes esclaves de Dieu. Donc, il y a quatre fois le concept d'esclavage dans notre relation avec Dieu et avec les choses divines. Et lorsque on nous dit que nous sommes esclaves, nous, en particulier qui sommes français, notre chair se révolte parce que nous, on a eu la Révolution française, et on est esclave de personne, et on a notre hymne national qui dit « Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé ». Alors, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais voilà, on n'est pas des esclaves, les Français. Et pourtant, on doit accepter ce principe. Si nous sommes chrétiens, nous sommes esclaves de Dieu. Pourquoi nous sommes-nous esclaves ? Parce que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, car nous avons été rachetés à un grand prix. On a chanté tout à l'heure ce cantique sur le rachat. Et le mot « rédemption » lui-même, le mot « rédemption », c'est un mot qui veut dire « racheter », payer une dette. Et à la croix, Christ, dit la parole dans Éphésiens 1,7, a fait la rédemption par son sang. Donc il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Vraiment, le mot « rédemption », c'est utilisé dans ce contexte. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Et le prix qu'il a payé, c'est son sang. Et le résultat, c'est ce que nous voyons en Tite 2. Nous voyons que Jésus nous a rachetés de toute iniquité et s'est fait un peuple qui lui appartient. Donc, nous sommes réellement, si nous sommes au Seigneur, des esclaves de Dieu. Mais comme toutes les images, cette image de l'esclavage a des limites. Et c'est pour ça qu'un saint principe de l'interprétation de l'Écriture, c'est de ne pas pousser à l'extrême une image. Par exemple, quand on prend des paraboles, il y a des fois des gens qui vont prendre une parabole, ils vont interpréter tous les moindres détails. Ça se faisait surtout dans le temps, dans les premiers, les pères de l'Église, ils vont pousser à des détails assez incroyables. Il ne faut pas aller trop loin. L'image, elle véhicule une idée. Donc l'idée, c'est cette idée d'une appartenance complète. Mais Paul, vous voyez, il dit en verset 19, il dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Et ce qu'il veut dire quand il dit ça, probablement, c'est « J'utilise une image un peu forte parce que vous êtes encore sous la chair, enfin, la chair est encore en vous et obscurcit votre compréhension. Donc j'utilise cette image pour vous permettre de comprendre. Mais on doit évidemment être mesuré dans l'image de l'esclavage et certainement... Alors que l'esclavage du péché, il est totalitaire, il est compulsif, il est tyrannique. L'esclavage de Dieu, il est doux. C'est un esclavage d'amour. En 2 Corinthiens 5, 14, Paul dit « Parce que l'amour de Christ nous presse. » J'aime bien la traduction en anglais qui dit « nous contraint. » Mais nous n'en sommes pas moins esclaves, au sens de la propriété. Nous sommes la propriété du plus doux des maîtres et nous sommes censés, en tant qu'esclaves, lui obéir complètement et en toute chose. Alors, maintenant, dans ce verset 16, on a une première vérité fondamentale, c'est l'esclavage, c'est le fait qu'on soit esclave. Et il y a une deuxième vérité fondamentale, c'est que l'esclavage du péché conduit à la mort. Et pourtant, donc, dans ce verset, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave du péché? Donc il parle à des chrétiens. Ne savez-vous pas, dit-il, vous les chrétiens? Et en fait, il leur dit que le péché n'est pas sans conséquence pour le chrétien. Et on a là un point fondamental dans la réfutation que Paul fait de l'argument du verset 15. Il réaffirme ce lien entre le péché et la mort au verset 21. La fin de ces choses, c'est la mort. Et même au verset 23, avec cette formule célèbre, le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont il parle ici, c'est pas seulement la mort physique. C'est certainement elle englobe certainement la seconde mort, la damnation éternelle. Et d'ailleurs, le verset 23 le laisse entendre clairement, puisqu'il fait un parallèle entre la mort et pas seulement la vie, mais la vie éternelle. Donc si le salaire du péché, c'est la mort, et le don de gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, il parle très probablement de la mort éternelle. Ce principe qu'une vie chrétienne est incompatible avec la pratique du péché est affirmé partout dans l'Écriture. Je cite quelques passages. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » 1 Jean 3, 9. « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » 2 Timothée 2, 19. Galates 5, 19 et 20 cite une liste de péchés contenant des choses très répandues, comme l'animosité, la querelle, la jalousie. Et Paul nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous dit en Romains 8, 13 que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc une véritable vie chrétienne est caractérisée par une mise à mort du péché, mais pas par une perfection sans péché. Une mise à mort du péché, mais ce n'est pas une perfection sans péché, mais ce n'est certainement pas non plus une pratique du péché. Sur ce point, je voudrais citer un passage de mon livre préféré. Je lis ce livre-là, le livre de John Owen. Je le cite chaque fois que je fais un message. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, ce livre sur la mise à mort du péché. Et en fait, Owen montre comment le lien qu'il y a entre le péché et la mort pour un chrétien. Je vais lire pour vous. Voilà ce qu'il dit. Celui qui est tellement enchevêtré sous le pouvoir d'une corruption, donc c'est-à-dire d'un péché, ne peut avoir pour l'instant aucune preuve définitive de sa participation à l'Alliance. Alliance par l'efficacité de laquelle il peut être délivré de la peur de la destruction. Si bien que destruction par le Seigneur peut à juste titre être une terreur pour lui. Et il doit le regarder comme ce qui sera l'aboutissement de sa conduite et de ses voies. Vous voyez l'idée, hein ? Si quelqu'un est sous le pouvoir du péché, il ne peut pas être délivré de la peur de la destruction. Et voilà comment Owen continue. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Certes, mais qui peut avoir le réconfort de cette affirmation? Qui peut la présumer pour lui-même? Ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Et il fait un raisonnement très intéressant. Il dit un homme se juge lui-même de deux façons. Premièrement, le jugement de sa personne. Deuxièmement, le jugement de ses voix. C'est du jugement des voix et non de la personne dont je parle. Un homme peut avoir la meilleure preuve concernant sa personne. Toutefois, il est de son devoir de juger que l'aboutissement d'une mauvaise voie est la destruction. Et ne pas le faire, c'est de l'athéisme. Je ne dis pas que dans une telle condition, un homme devrait rejeter les preuves qu'il a personnellement par à Christ, mais je dis qu'il ne peut pas les garder. Donc ce qu'il nous dit ici, en fait, c'est qu'on peut se juger comme étant une nouvelle créature, et il nous incite même à le faire dans le passage précédent, en 6.11, où il nous dit « Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Christ. » Donc là, il dit « Regardez-vous comme des nouvelles créatures. » Parce que le passage du chapitre 6, la toile de fond, c'est la nouvelle naissance. Donc il nous dit « Regardez-vous comme de nouvelles créatures. » Donc ça, c'est le jugement de la personne. Mais il y a aussi autre chose. On est une nouvelle créature, mais il dit « On doit aussi juger la voie sur laquelle nous marchons. » Et ce qu'il nous dit, « Si vous marchez sur la voie qui mène à la perdition, avec les autres, sur le chemin qui mène à la destruction, si vous êtes esclave du péché qui mène à la mort, alors vous ne pouvez pas avoir d'assurance du salut. » C'est ça qu'il dit finalement, c'est que et je pense que c'est dans la pensée de Paul quand Paul dit, quand il parle du péché qui conduit à la mort, il dit quelqu'un qui se livre au péché est esclave du péché, et le péché conduit à la mort. Mais ensuite, nous avons le verset 17 qui est un grand réconfort, parce que Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc, chez Paul, le petit mot « mais », M-A-I-S, est souvent associé, on le trouve dans Romains 3, 21, par exemple, « mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu par la foi », ou en Éphésiens 2, 4, « mais Dieu qui est riche en miséricorde ». Ou encore, plus loin dans la section, verset 22, « mais maintenant étant affranchi du péché ». Donc, le « mais », chez Paul, il est glorieux. Il est glorieux et il sépare la perdition du salut. Donc là, Paul est en train de nous dire, mais vous n'êtes pas perdu. Grâce soit rendue à Dieu. Donc il nous rassure, il nous encourage par une glorieuse affirmation sur le statut du chrétien. Étant chrétien, vous êtes affranchi du péché, vous n'êtes plus esclave du péché, vous êtes esclave de la justice. Et donc à nouveau, là, Paul, comme il a fait dans les premiers versets, les 14 premiers versets, ils nous parlent de qui nous sommes en tant que chrétiens. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il dit sur nous. Il nous parle de quatre choses. Il nous parle de qui nous étions avant notre salut, premièrement. Il nous parle ensuite d'un événement qui s'est produit dans notre vie. Troisièmement, il nous parle de celui qui a causé cet événement. Quatrièmement, il nous parle de ce que nous sommes devenus suite à cet événement. Donc tout d'abord, qui nous étions avant notre salut? Nous étions esclaves du péché, après avoir été esclaves du péché. Donc aveuglément soumis à tous ses ordres, nous venons de le voir en détail, je ne reviens pas là-dessus. Je remarque simplement ceci, c'est que tous les chrétiens ont été, à un moment dans leur vie, des esclaves du péché. C'est une vérité universelle. Deuxièmement, on va passer un peu plus de temps sur cet événement qui s'est produit dans notre vie. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Donc cette petite phrase, elle compacte en elle-même beaucoup de vérités sur le phénomène de la conversion. Et là, je me suis beaucoup inspiré de David Martin Lloyd-Jones, dont j'ai souvent parlé également, qui a écrit un livre qui a été édité en français, je ne sais pas s'il est encore, qui s'appelle « La dépression spirituelle ». Il a consacré un chapitre à ce verset. Et en fait, il fait la remarque en fait, que sur la base de ce verset, que dans notre conversion, il y a trois composantes importantes. Trois composantes importantes qui sont notre compréhension, notre cœur et notre volonté. Et il affirme que ces trois composantes sont indispensables à une véritable conversion. Donc d'abord, regardons notre compréhension. Donc la compréhension, la conversion commence avec la compréhension d'une vérité qu'il appelle ici la règle de doctrine. La règle de doctrine. Donc c'est une vérité qui est intelligible et qui nous est présentée et nous la comprenons. Et c'est très important parce que la foi, ce n'est pas un sentiment diffus, une émotion, une sensation, la foi se saisit d'abord d'une vérité intelligible. Et cette vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qu'il appelle ici la règle de doctrine. Mais la conversion ne s'arrête pas là, ce n'est pas seulement une connaissance. La conversion, c'est plus qu'une connaissance, et c'est effectivement également une volonté. Donc il dit le chrétien obéit à la règle de doctrine. Donc là, il y a la volonté qui rentre en jeu. Le chrétien obéit volontairement au Seigneur Jésus. Il se soumet à lui. Donc on retrouve ici le concept d'esclavage. Il se présente comme esclave. Et Paul, d'ailleurs, associe souvent, en tout cas plusieurs reprises dans Romains, le concept d'obéissance avec le concept de foi. En Romains 1,15, il dit qu'il a reçu par Jésus-Christ la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc il y a un lien entre l'obéissance et la foi. Mais d'où vient cette obéissance? Ça, c'est magnifique. Cette obéissance à Jésus, elle vient du cœur, car vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Donc le cœur dans la Bible, c'est le siège de nos décisions, de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions spirituelles. C'est vraiment le cœur de notre cœur. C'est vraiment, voilà, c'est au centre de notre vie spirituelle. Chez l'homme non régénéré, le cœur est mauvais. C'est un cœur de pierre. Chez l'homme régénéré à nouvelle naissance, le cœur de pierre est transformé en cœur de chair. Et Jérémie 31-33, dans ce passage, Dieu dit qu'à ce moment-là, Dieu a écrit la loi dans nos cœurs. Donc ici, dans cette phrase, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, il y a vraiment notre conversion, une nouvelle naissance, un cœur qui est capable de croire, une compréhension de la vérité qui est présentée par l'Évangile, et une obéissance à cette vérité. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Et ce que je viens de dire donc, fait le lien avec le troisième aspect de ce verset, le début de ce verset, « Grâce soit rendue à Dieu ». Le verset commence comme ça, « Grâce soit rendue à Dieu » de ce que vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Donc la conversion, encore une fois, et ça c'est ce qui est très clair dans ce chapitre, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui nous arrive. C'est Dieu qui le produit en nous. Et c'est pour ça que Paul dit « grâce lui soit rendue ». S'il rend grâce à Dieu du fait qu'on ait obéi, c'est parce que ça vient de Dieu. C'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Elle est l'œuvre exclusive de Dieu. On a vu au verset 3, « Vous avez été baptisés en Jésus-Christ ». Au verset 4, « Vous avez été enseveli ». Au verset 6, « Notre vieil homme a été crucifié ». Donc là, on a une forme passive qu'on trouve aussi au verset 17, « Vous avez été affranchi ». Qui nous a affranchi? C'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il nous a promis en Jean 8, hein, quand il a dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Donc ce sont des choses qui nous sont arrivées et pas des choses qu'on a produites. Enfin, quatrièmement, dans ce verset, on voit ce que nous sommes devenus, affranchis du péché et esclaves de la justice. Donc on va terminer là-dessus. On l'a beaucoup vu donc dans la première section, l'affranchissement du péché, c'est un thème important dans la première section. On a vu que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Il a été détruit, disent certaines versions. C'est plutôt le concept d'être réduit à l'impuissance. C'est le même mot que le mot anéanti, qui est utilisé pour parler de Satan, et donc du fait qu'en fait, le diable a été anéanti par la croix, donc en Hébreux 2. Donc le diable, il n'est pas entièrement détruit, mais il est anéanti, il est rendu impuissant, en tout cas pour les chrétiens. Il a reçu un coup fatal. Donc, affranchissement du péché, il y a ce concept de, effectivement, qui est développé en fait du péché qui est réduit à l'impuissance. Donc c'est pas la perfection sans péché, l'affranchissement du péché, ça n'est pas la perfection sans péché. Tout le contexte suggère. Le fait notamment que Paul nous exhorte à lutter contre le péché, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, ça veut dire que on n'est pas dans une perfection sans péché, sinon on n'aurait pas besoin de lutter. C'est important parce qu'il y a des enseignements qui laissent entendre ça, qu'il y a une perfection sans péché. Peut-être plus trop de nos jours, mais en tout cas, ça a été très, très présent. Et ça peut même amener les gens à une grande angoisse. Parce que s'ils voient encore le péché en eux, ils imaginent qu'il y a un gros problème. Mais le chrétien, donc, il n'est pas dans la perfection sans péché, mais il n'est plus sous l'esclavage du péché. Il n'a plus de compte à rendre au péché. Paul dit qu'on n'est pas redevable à la chair pour faire ses convoitises. Il n'a plus de compte à rendre au péché. Le péché peut crier après lui, il peut le tenter, mais le chrétien peut lui dire non. le chrétien peut lui dire non, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Ça, c'est une vérité vraiment fondamentale. Et en fait, ça veut dire que quand le chrétien pêche, en fait, il pêche volontairement. L'homme non régénéré, lui, il est soumis, complètement soumis. Quand la chair lui dit de calomnier, il calomnie. Quand elle lui dit de se mettre en colère, il se met en colère. Il ne se rend même pas compte qu'il est esclave, car sa personnalité, le vieil homme, est complètement en accord avec la chair. Donc ils font une union parfaite. Et il se soumet même volontairement et même plutôt joyeusement. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes affranchi du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous pouvez lui dire non. Et quand il se présente, la prochaine fois que le péché viendra illégitimement vous demander allégeance, parce que c'est ça finalement, il viendra et il dira « Je suis ton maître, obéis-moi », vous pouvez lui dire non, parce qu'il n'est plus, et nous pouvons lui dire non, parce qu'il n'est plus notre maître. Et nous sommes esclaves de la justice. Donc qu'est-ce que la justice? Je termine avec ça. Pratiquer la justice, ça consiste à pratiquer la volonté de Dieu finalement. C'est tout simple. Pratiquer la justice, c'est pratiquer la volonté de Dieu. Christ a mené une vie de justice, à laquelle justice nous a été imputée. Il a mené une vie de justice parce qu'en fait, il a fait en permanence la volonté du Père. Il l'a dit d'ailleurs. Il faisait en permanence la volonté du Père sans jamais défaillir. Donc c'est cette justice qui nous est imputée. Et être esclave de la justice, ça veut dire être entièrement soumis à tout ce que la justice de Dieu exige. C'est chercher à mener une vie à l'image de Christ. Et la suite du passage, au verset 19, nous dit que la conséquence de la justice, c'est la sainteté. Et la sainteté, c'est être semblable à Dieu, car Dieu seul est saint. Je pense que, pour conclure, on doit réfléchir à cette idée d'esclave de la justice. Parce que finalement, on voit plein de gens dans le monde. Je trouve que les gens, les hommes publics en général, les stars, en particulier les chanteurs, les acteurs de cinéma, sont des gens qui sont extrêmement moraux finalement. Ils se présentent toujours sous un jour extrêmement moral. Ils donnent des leçons à tout le monde. Et les hommes politiques aussi sont comme ça. Toujours des grandeurs de leçons, toujours se fondant sur la morale. Les incroyants sont des gens particulièrement moraux. Et ce sont des pharisiens, parce qu'ils imposent cette morale à tout le monde. Ils ne la pratiquent pas eux-mêmes. Est-ce que ces gens-là sont esclaves de la justice? Vous voyez la différence qu'il y a entre la moralité et être esclave de la justice. C'est vraiment différent. Beaucoup d'hommes, même de femmes non régénérées que nous connaissons, sont, dans une certaine mesure, gentils et honnêtes. Moi, j'en connais plein dans mon travail, des gens qui sont gentils et honnêtes. Et ce serait faux de dire le contraire. Mais ils ne sont pas esclaves de la justice. Être esclave de la justice, c'est chercher à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, en particulier quand c'est notre ennemi. Pas seulement nos enfants, pas seulement les frères et sœurs en Christ, mais en particulier nos ennemis. Et cette chose-là, elle ne peut venir que d'un cœur régénéré par Dieu qui a reçu l'Esprit Saint. L'Esprit de Christ, parce que sans Christ, on ne peut rien faire. Prions. Père Céleste, merci pour ces vérités qui nous dépassent. Nous voulons retenir, Seigneur, que le péché n'est pas sans conséquence, mais que tu nous as affranchis du péché, Seigneur. Tu nous as affranchis du péché. Maintenant, tu veux que nous soyons esclaves de la justice, tu dis même que nous le sommes. Alors Seigneur, puissions-nous être des bons esclaves, des bons serviteurs. Puissions-nous, Seigneur, nous soumettre avec joie à tout ce que ta justice, Seigneur, nous demande, à tout ce qui est ta volonté. Et puis Seigneur, puissions-nous nous rappeler, comme ton apôtre Paul l'a si bien dit et répété, que nous sommes affranchis du péché, que nous ne lui appartenons plus, qu'il n'a plus de pouvoir sur nous, qu'il n'est plus notre maître et que nous pouvons lui dire non. Et puisses-tu mettre dans notre cœur vraiment une volonté de lui résister et une immense confiance dans cette arme que tu nous as donnée et dans la résidence en nous, Seigneur, de ton esprit. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Puissions-nous les méditer, puissions-nous les comprendre, puissent-elles distiller un peu dans notre, dans notre organisme, plutôt dans notre esprit, et que nous comprenions ces choses et que notre vie en soit transformée. Car ces choses nous dépassent. Je te prie, Seigneur, en saint nom de Jésus.